L'erreur est urbaine sur 48 FM. C'est l'émission qui vous parle d'urbanisme, d'architecture et de sociologie sous tous les angles de la ville. On est présent pendant le confinement, non plus en mensuel, mais en hebdomadaire. Ouais, on se met une bonne pression parce que pour beaucoup d'entre nous, on est au chômage technique, donc on se fait un petit peu chier. Donc on a décidé de vous offrir une émission chaque semaine, un peu plus courte, c'est 1 heure, et on parle donc avec nos chroniqueurs habituels ou des fois un peu moins habituels. Vous allez voir, on va les présenter à la suite. On parle de la ville à Liège et un peu partout dans le monde. C'est l'erreur est urbaine. Aujourd'hui, notre thématique, ça va s'orienter autour forcément du confinement, vu qu'on est tous dedans. Et le confinement et les inégalités qu'elle apporte, notamment entre la ville et plutôt les zones rurales, mais également d'autres lieux plus particulièrement en ville. On va parler notamment de banlieue. Avec nous aujourd'hui, en fait, on n'a que des petits nouveaux, si ce n'est moi qui suis toujours aux manettes, c'est Alexandre. Mais avec nous aujourd'hui, vu qu'on est en confinement et qu'on n'a pas d'accessibilité au studio, on a décidé plutôt de s'ouvrir au monde, ou du moins à la France. Aujourd'hui, il n'y a que des Français avec nous et que
Des
des
Françaises.
professionnels en urbanisme. Donc, bienvenue à vous. À vous toutes, en plus c'est une
Oui.
délégation de filles, bienvenue à vous toutes. Donc il y a Mayou qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mayou.
Bonjour.
Bonjour Mayou. Et également Alexia.
Salut.
Et Alice.
Salut.
Donc merci à vous toutes. Bon, je présente rapidement. On a tous et toutes fait le même master en urbanisme du côté de Bordeaux. Depuis, on a un peu bougé aux quatre coins de la France ou même du monde, puisque je suis à Liège de mon côté. Donc, nous avons une confinée du côté de d'Issoire, près de Clermont-Ferrand, dans le Massif central. On a une confinée du côté de Tours avec Mayou et une confinée du côté de Paris. Je reviens vers vous tout à l'heure, puisque vous allez nous parler. Donc, dans une deuxième partie, ça va être Alexia et Alice qui vont nous parler, donc, notamment de l'opposition entre ville et zone rurale pendant le confinement. Et Mayou nous parle de l'habitat participatif et qu'est-ce qu'il peut amener comme réflexion en temps de confinement. C'est moi qui commence dans cette première partie pour vous parler. Donc, j'ai fait une petite revue de presse. Je voulais vous parler du confinement, notamment des zones urbaines, on va dire des zones sensibles, j'ai appelé les banlieues, notamment en France. On va plutôt parler de zones d'inégalité du côté belge, mais non, ici, ce sont les banlieues dont on nous parle, notamment dans les articles que j'ai pu récupérer un peu partout, à droite à gauche. Depuis le début du confinement, il y a une vraie réflexion sur une inégalité qui est encore plus exacerbée en temps de confinement. On parle d'inégalité, de fracture sociale depuis le début de ce confinement, ou du moins de cette période de rester chez vous, qui a exacerbé, mis davantage en lumière ce qui n'est pas vraiment caché avant. Mais boum, on se rend compte qu'il y a des gens quelque part en France au XXIe siècle, vous imaginez, qui vivent entassés, notamment donc dans les banlieues. C'est un premier article de La Marseillaise, un journal non pas spécialisé dans les champs militaires, mais un journal local provençal, pardon, qui publie le 6 avril une carte développée par deux géographes, mettant en exergue la corrélation entre forte densité du nombre de personnes partageant une ou plusieurs pièces d'un logement et pauvreté. Donc l'article s'appelle, si vous voulez le retrouver, Marseille, un confinement inégalitaire, la carte qui visualise l'ampleur. Bon, c'est un petit peu long, mais vous allez voir que cet article a un nom légèrement pompeux. En soi, ça n'est pas une surprise. Mais en temps de confinement, cette analyse, elle devient d'autant plus grave. Oui, les pauvres en chient plus pendant le confinement que les moins pauvres. Ainsi, la proportion de personnes par pièce varie donc du simple au triple à l'échelle de la ville de Marseille. On passe donc, selon les secteurs, de 2 à 6 personnes pour un 5 pièces. Donc, c'est Elisabeth Dorier qui est co-auteur de cet article et de cette analyse avec le laboratoire Population, Environnement, Développement de l'Université d'Aix-Marseille. Elle nous dit, si on compare cette donnée avec la carte du taux de pauvreté, tout est lié. Être pauvre, c'est être entassé. Et en période de Covid, ça inscrit physiquement les inégalités. C'est plus compliqué de rester enfermé chez soi quand on est 10 qu'être enfermé dans une maison avec jardin. Et en plus, il y a davantage un risque pour ces banlieues. Des grands ensembles de plusieurs étages où s'entassent parfois plusieurs centaines de personnes, il y a beaucoup plus de risques de multiplier les contacts et de propager le virus, comme souligne notamment Jean-Luc Ferracci, un infirmier libéral, pour qui les cités sont avec certitude des clusters de la pandémie. On va plus au nord avec France Culture, donc deuxième article, ou du moins là c'est plutôt une chronique qui date du 22 avril, qui s'intitule « Banlieue, comment la crise sanitaire et économique frappe les quartiers populaires ». On donne alors la parole à la maire de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines. C'est plutôt sympathique comme prénom, mais je vais vous dire après ce que ça connote plutôt. Vice-présidente donc de l'association des maires villes et banlieues, elle s'appelle Catherine Arnoux. Donc retour 25 ans après le tournage de La Haine, oui, qui a notamment été tourné donc à Chanteloup-les-Vignes. Donc ça vous montre bien que c'est une cité dortoir et une banlieue qui a été assez touchée, notamment par les événements il y a 15 ans. En 2005, l'une des premières banlieues qui s'embrasait, où le constat est le même, voire pire, pendant ce confinement, d'après Madame le maire. Le confinement souligne et aggrave les inégalités territoriales. Par quoi ? Plusieurs éléments. L'éloignement numérique, beaucoup plus de difficultés d'avoir un accès au numérique. Pourquoi ? Parce que beaucoup moins de box et Wi-Fi, mais également beaucoup moins d'antennes de connexion 3G ou 4G. On est des fois à 20 voire 30 minutes de Paris en RER, mais on a une beaucoup moins bonne connexion. Deuxième constat, une plus grande dépendance à la solidarité locale, du fait de quoi ? Des coûts surplus, plus de charges puisqu'on reste plus longtemps à la maison, plus de charges parce que les enfants sont toute la journée à la maison, et des revenus en moins. La plupart du temps, dans les banlieues, ce sont des employés qui sont obligés de se déplacer, donc qui sont actuellement au chômage technique. Donc, ce qui amène un entassement dans les appartements, une inégalité également dans l'éducation et, comme on l'a dit tout à l'heure avec le constat qui a été fait dans le premier article, une concentration épidémique. On revient également avec le Zeit sur la situation de Seine-Saint-Denis, donc le Zeit qui est un journal allemand et qui fait un article traduit et publié par le Courrier international le 2 avril dernier et fait une description par les yeux de Hamza Esmili de la situation en pleine Saint-Denis. Hamza Esmili qui est un sociologue dans l'Université de Paris. Donc, un constat de fait, le confinement semble moins respecté ici, dans la pleine Saint-Denis qu'ailleurs. En tout cas, c'est un constat que fait notre sociologue. 10% en tout cas des infractions de confinement qui ont été faites entre le 17 mars et le 1er avril ont été recensées dans le département. Le confinement est un concept bourgeois, nous dit Hamza Esmili. Le mot est posé. Il est plus facile de le vivre dans une résidence secondaire qu'ici. Fermez les guillemets. Une difficulté à respecter le confinement pour ceux qui travaillent sur des emplois nécessaires, obligés de se déplacer et qui vivent parfois sous le même toit avec d'autres travailleurs, du coup multipliant donc les risques de transmission. Et insidieusement, nombreux médias jouent le jeu et pointent du doigt les origines étrangères de cette masse de jeunes, enfants d'immigrés des banlieues, des indisciplinés. Et comment on fait pour discipliner ces indisciplinés ? Vaut mieux envoyer la police, renforcer les mesures comme des couvre-feux dans certaines villes de banlieue, pour faire monter un peu plus la pression. D'autant plus que toutes les structures d'équilibre social, comme les appelle notre sociologue, ont fermé les écoles, les espaces de jeu et de sport, les MJC et autres structures d'accompagnement extrascolaire. Il ne faut plus grand-chose pour que la cocotte minute de la banlieue n'explose, souligne le Figaro dans un article du 27 mars. Une interrogation que se pose également Hamza Esmili, lui qui a déjà étudié le sujet en tant que sociologue et reconnaît en tout cas que tout peut très vite glisser. Peut-être aussi un écho au drame qui s'est passé il y a quelques semaines à Bruxelles, le drame d'Adil, ce jeune de banlieue décédé à Anderlecht suite à un accident avec une voiture de police. La tension monte dans les banlieues belges et françaises où plusieurs maires ont appelé à la police d'agir avec discernement. Il faut rappeler à la police d'agir avec discernement. Merci en tout cas de leur rappeler, c'est important. Surtout, comme conclut Hamza et Smili, ces banlieues ont des leçons à donner au reste du pays. Ils savent se serrer les coudes dans un environnement où le confinement était déjà bien présent pour certains avant celui du Covid-19. Alors, un exemple, je vous laisse écouter, c'est un témoignage d'une vidéo de Brut publiée sur leur page Facebook le 18 avril. On suit en Seine-Saint-Denis à Clichy-sous-Bois le collectif Hack le Feu et le centre social Tout Couleur qui s'organise pour faire face au confinement et assurer l'aide alimentaire aux nombreux démunis. Donc, comme le rappelle la vidéo, le département de Seine-Saint-Denis est l'un des plus denses, l'un des plus pauvres, et presque inévitablement l'un des plus touchés par le virus. Donc, ouais, comme on l'entend au début, nous, ça fait 50 ans qu'on est dans le confinement, dans des bâtiments de 20 étages à 5 familles. Des inégalités ressurgissent encore plus, et plus le confinement va durer, plus ça va se sentir. Bref, voilà, c'était un petit tour, en tout cas, de l'actualité et de ce sujet si particulier, celui du confinement et de l'épidémie dans les banlieues. J'aurais pu vous en citer plein d'autres, je vous donne juste déjà les articles. Donc, il y a Jean-François Kahn dans Marianne, le 27 mars, « Quand le confinement révèle et exacerbe les inégalités ». Sur slide.fr, le 20 mars, c'est Tissiou Lecoq qui nous parle de l'exacerbation de la fracture de classe sociale et fracture de classe. L'article, c'est « Le confinement ne nous soude pas, il nous soude encore plus ». Sur RTL, Marie Zafimei, le 26 mars, « Coronavirus, logement, fracture numérique, comment le confinement révèle les inégalités ». François, le 13 avril, par Guillaume Souvent, « Confinement des inégalités sociales qui se creusent sous nos yeux », point d'exclamation. Et le Huffington Post, le 19 mars, Anne Lambert, « Avec le coronavirus et le confinement, le scandale des inégalités sociales éclate ». Alors, je trouve ce titre, en tout cas personnellement, un peu exagéré, parce que ces inégalités, franchement, elles ne sont pas nouvelles. Il est intéressant de voir, en tout cas, par contre, que le regard a peut-être un peu changé. On y trouve un peu d'empathie pour ces gens qui souffrent en banlieue et de la critique pour cette bourgeoisie qui vivrait le confinement comme une belle aventure, une occasion de s'offrir à l'introspection. En attendant, en tout cas, que ces articles qu'elles représentent soient relayés par le plus grand nombre, du moins c'est ce que j'espère avec ces différentes publications. On attend également en banlieue que les choses changent et que cette crise puisse servir à raisonner et à faire agir toutes et tous. Voilà, c'est la fin de ma chronique, c'est la fin de cette revue de presse. Ce n'est pas un exercice facile, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Je ne sais pas s'il y a des réactions parmi nos chroniqueuses. Oui, il y a Alice qui a envie de s'écouter.
Moi, je voudrais déjà réagir. Ça me fait penser à une situation qu'a vécue ma sœur, dans le sens où on n'est pas du tout égalitaire et où on s'en rend compte dans le cadre du travail et du télétravail notamment, avec la multiplication des visios où on se retrouve à devoir dévoiler l'intérieur de chez soi et on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes conditions de vie, du coup, plus que de travail. Et par exemple, ma sœur, donc avec qui je vis, au bout de 4-5 semaines, on va dire, de 3-4 semaines, on va dire, de confinement, s'est sentie presque obligée d'intervenir ou en tout cas d'alerter ses collègues de travail sur le fait qu'ils n'avaient pas tous les mêmes conditions de vie et qu'il y avait des remarques qui pourraient être malvenues ou mal vécues dans les réunions. Enfin, notamment, elle, pour détailler un peu, elle travaille dans un cabinet d'avocats, donc il y a déjà une très grande, de fortes inégalités sociales, évidemment, entre les associés, les avocats, les assistants, et ainsi de suite. Et au moment de faire des visios avec tout le monde en commun, c'est là qu'on se rend compte que certains font des visios dans des jardins avec piscine parce qu'ils ont pu partir dans des maisons secondaires, et où d'autres font des visios sur un téléphone portable et dans un 30 mètres carrés à 3-4 personnes. Et donc, elle s'est sentie obligée d'alerter sur le fait qu'il fallait une prise de conscience de la part de certains qui ne s'en rendaient pas du tout compte, qui arrivaient bronzés ou qui parlaient jardinage ou des choses comme ça.
C'est vrai que, ouais, en tout cas, il y a vraiment des inégalités, vraiment, effectivement, qu'on constate même dans le travail. Il y a aussi des vécus qui sont complètement différents. Et ouais, indirectement, notamment, il y avait beaucoup d'étudiants qui ont manifesté le fait, en tout cas à l'université de Liège, leur difficulté parfois d'avoir une bonne connexion. De pouvoir être tranquille parce qu'ils sont dans leur famille et qu'ils n'ont pas une pièce où ils peuvent s'isoler tranquillement parce qu'ils sont plusieurs dans la chambre, etc. Et effectivement, dans le travail, dans les études, il y a une inégalité qui est d'autant plus forte dans ce confinement parce qu'on est directement avec ses ressources privées. Il n'y a plus d'espace public où on peut se mettre. Et effectivement, je pense
Bah,
que...
et oh,
Ouais, vas-y,
pardon, je
vas-y.
te coupe, mais on est déjà. Enfin, moi, personnellement, par exemple, je suis déjà contente d'avoir un travail qui me permette de télétravailler parce que je serais beaucoup plus malchanceuse si c'était pas le cas. Mais rien que les comptes. Enfin, quand on se rend sur un lieu de travail, on est plus ou moins tous égaux, en tout cas, dans une certaine mesure. Alors que rendus tous coincés chez nous, typiquement, moi, depuis le début du confinement, je vois bien que ma condition physique, ma posture, mon poste de travail n'est absolument pas le même. C'est complètement bricolé. Et je vois bien que mon corps en pâtit. Et je suis certaine que certains de mes collègues n'en pâtissent pas. Et tant mieux pour eux. Mais du coup, ça, le fait d'être renvoyé chez nous, quelque part, nous enlève des conditions dont moi, en plus, je ne me rendais pas forcément compte qu'elles étaient bonnes. Et en fait, le fait de devoir travailler chez moi, je me dis, ah bah. Je suis plus à l'aise au travail, en fait.
Ouais, clairement et largement, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ce constat-là, à l'inverse de beaucoup de patrons qui font ce constat de se dire, ah, mais en fait, on n'a peut-être plus besoin d'avoir de bureaux, de louer des bureaux et faisons travailler chacun chez soi, alors que les salariés sont plus effectivement dans une posture, même si certains reconnaissent avoir cet avantage de, en tout cas, d'exprimer que ça ne les dérangerait pas d'avoir un ou deux jour à pouvoir travailler chez soi parce que c'est aussi s'éviter par moments certains transports qui peuvent être harassants. Mais effectivement, il y a ce souci-là où on ne travaille pas dans les mêmes conditions. On a peut-être des fois, ouais, effectivement, on n'a pas un bureau ou on n'a pas un environnement favorable pour se poser derrière un ordinateur toute la journée. Alexia, ouais.
Et à l'inverse, ouais, parce que tu dis qu'effectivement, il y a des patrons qui en profitent pour se dire, bah, effectivement, on n'a peut-être pas besoin d'un bureau par personne et on peut faire des roulements de télétravail, etc. À l'inverse, il y a des patrons ou des entreprises, etc., qui sont en train de se servir de cette période-là pour se dire, bah, non, en fait, on n'autorisera pas le télétravail pour nos employés ou pour nos agents parce que, en fait, c'est invivable. Et il faut bien rappeler que là, c'est un confinement qui est obligé, qui est du 5 jours sur 5 ou du 6 jours sur 6 quand on travaille plus, ou etc., etc. Et où, enfin, ce n'est pas des conditions normales de télétravail. Et il faudra pas tirer les conclusions de ce confinement et de cette période de télétravail pour dire ça marche ou ça ne marche pas. Parce qu'effectivement, on n'est pas dans des conditions optimum de télétravail, ni dans le cadre de sa mise en place, ni dans le cadre de son suivi au quotidien, quoi.
Mayou, je ne sais pas si tu avais un...
Ouais, enfin moi c'était plus par rapport au sujet sur les banlieues, enfin, même si je pense que tout est lié, c'est sûr. Enfin, je pense que ce qu'il faut aussi, enfin, je suis complètement d'accord avec tes conclusions, Alex, mais que les choses après le confinement, je pense aussi qu'il faut qu'on arrête de parler de la banlieue toujours sous l'angle du négatif. Alors après, c'est une sélection d'articles de presse et j'imagine qu'il y en a des plus lumineux, on va dire. Mais c'est vrai que, et puis peut-être que dans l'enregistrement de Brut, c'est peut-être aussi plus positif ouais, ce dont il parle. Mais c'est vrai qu'on peut dire aussi que c'est des nids à solidarité. Les banlieues, il y a un peu la culture du quartier. Enfin, je parle vraiment des banlieues françaises, je ne connais pas du tout les Belges. Et le principe de serrer les coudes des assos qui sont déjà présentes depuis longtemps, qui vous parliez de l'aide alimentaire et tout ça, ben je pense aussi qu'elles doivent avoir des ferments beaucoup plus intenses pour se relever de cette période-là Et puis même, être pauvre, c'est être entassé, oui, mais être pauvre, c'est bien autre chose aussi. C'est aussi être plus ouvert à l'autre, plus dans l'échange, plus... Enfin, je sais pas, mais il y a... Donc, c'est vrai que je pense une des choses aussi à retenir après, c'est les regarder un peu différemment, ces banlieues, parce que faut... c'est un peu de l'acharnement, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue.
Ouais, effectivement, il y a une sorte de peut-être de misérabilisme, en tout cas qui ressortait dans les articles. Mais comme je disais, déjà ce qui est bien, effectivement, notamment dans je sais plus maintenant, c'était pas France Culture, c'était dans l'article du site où la conclusion c'était aussi dire que effectivement il y a des ressources solidaires dans ces banlieues-là, parce que des fois ben c'est un peu triste à dire, mais ça amène quelque chose de positif. Mais du fait que les services publics sont moins présents, ben, y a un relais solidaire qui se met en place au niveau local. Et effectivement, ils ont des exemples intéressants. Et donc, ils le soulignent effectivement dans la vidéo de Brut. C'est que pour certains, ça fait plus longtemps que uniquement depuis le 17 mars qu'ils sont en confinement. Mais ça fait aussi depuis plus longtemps qu'ils ont des relais solidaires pour faire les courses pour les personnes âgées qui sont coincées chez elles, pour faire de l'aide alimentaire, pour créer des ateliers, notamment de création de masques. En tout cas, il y a eu beaucoup d'associations dans les banlieues qui se sont pas mis en place, mais elles étaient déjà présentes, mais en tout cas qui ont su embrayer directement dès le début de ce confinement et dès le début de la crise pour y répondre. Et c'est intéressant, en tout cas, que tu le soulignes. La conclusion va très rapidement, mais c'était chouette en tout cas de le ressouligner. Merci en tout cas. Et je ne sais pas si Alice et Alexia, ça allait en lien avec ce que vous allez nous dire tout à l'heure, le fait de travailler depuis chez vous. En tout cas, on va vous écouter attentivement en deuxième partie d'émission. En attendant, juste pour faire une petite pause musicale, puisque nous sommes sur 48FM et que nous aimons la musique, nous aimons notamment les artistes actuels et qui sont plutôt underground. Donc là, ce que je vous laisse écouter, c'est Crystal Clear de Johnny Mafia, un petit groupe bien sympatoche de rock français. Originaire de Sens, en Bourgogne. Vous ne connaissez peut-être pas Sens, mais vous connaissez la Bourgogne. Je vous laisse écouter. Johnny Mafia, c'est leur deuxième album sur les Princes de l'amour, produit par Jim Diamond. Vous connaissez peut-être, c'est le producteur notamment des White Stripes. Et on écoute Crystal Clear, Johnny Mafia. L'erreur est urbaine sur 48 FM, c'était Johnny Mafia, Crystal Clear, ça date de 2018, c'est sur l'album Les Princes de l'Amour. L'erreur est urbaine, c'est votre émission spéciale sur l'urbanisme, la ville et l'architecture. On parle cette semaine notamment des inégalités liées au confinement, puisqu'on est en plein dedans. Et je laisse la parole avec nous autour de la table, enfin... La table virtuelle, vous savez, on ne peut pas aller directement dans les studios de 48 FM, donc on est chacun de notre côté. Ça nous laisse l'occasion, en tout cas, d'avoir des invités qui viennent de très loin, puisqu'ils nous viennent de France, du côté de Paris et d'Issoire. Je crois que pas tout le monde, en tout cas chez nos auditeurs, connaissent Issoire. C'est du côté de Clermont-Ferrand, mais je pense que notre invité précisera... d'ailleurs par la suite, mais en tout cas l'idée c'était si j'ai bien compris et si j'ai bien suivi, je leur ai laissé un peu la liberté de faire leur propre sujet, c'était de parler des différences entre le confinement en ville et le confinement entre guillemets à la campagne. Je les laisse se présenter, nous développer leur sujet. C'est Alexia et Alice qu'on écoute tout de suite.
Oui, alors bonsoir, bonjour à tous.
Oui, donc on a enregistré l'émission jeudi soir, mais là on est samedi, il doit être à peu près 10h30. Bonsoir Alexia.
Et bonsoir. Alors vous ne connaissez pas Issoire, mais vous connaissez du coup encore moins Vaudable, où je réside très exactement. Issoire, donc 17 000 habitants, et Vaudable, moins de 200 âmes, à peu près autant de vaches et un petit peu moins de chèvres. Et moi, je voulais effectivement parler donc, des inégalités face au confinement et de s'interroger sur qu'est-ce que ça donne à la campagne. Alors, pas forcément l'opposé à la situation en ville, parce qu'on l'a vu, en fait, ça recoupe des réalités qui sont complètement diverses et variées. Et tu demandais tout à l'heure, Alex, si la chronique autour de la banlieue faisait écho... à ce qu'on allait dire, et en fait c'est un excellent tremplin, parce que on se rend compte qu'effectivement c'est pas une question d'endroit où on vit, mais plutôt de moyens dont on dispose, et en fait sur la conclusion de dire on se rend compte aujourd'hui des problèmes qui existent en banlieue, alors qu'en fait c'est pas le confinement qui les a fait naître, mais ça les met en lumière et ça les met en exergue. Et à la campagne, en fait, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que ça rend pas la situation plus difficile, le confinement, et encore qu'on verra que une fois, mais par contre on se rend toujours pas compte en fait de la situation à la campagne, parce que moi quand par curiosité j'ai fait des recherches, j'ai tapé campagne rurale plus difficulté plus confinement. Il a fallu à peu près que je parcours 3 pages de mon moteur de recherche avant de trouver autre chose que la vie douce à la campagne en temps de confinement, les joies de la campagne, les grands espaces, tous à la campagne, etc., etc. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu intervenir sur ce sujet, inégalité face au confinement, et que j'ai voulu parler de la campagne. Alors pas parce que j'y habite, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que j'ai des mœurs très ruraux. Je travaille en temps normal, je travaille en ville. Je rentre le soir dans mon village, mais je travaille à un quart d'heure de là où j'habite. Malgré tout, mes activités se tournent de plus en plus vers un mode de vie qu'on appellera rural ou néo-rural, parce qu'il y a... Maintenant, aujourd'hui, il y a toujours un mix entre mode de vie urbain et mode de vie rural. Du coup, je voulais commencer par des petites histoires que j'ai un peu romancées, mais on n'est pas si loin de la vérité que ça. Alors d'abord, la petite histoire de Josette, elle vit dans la Creuse. On est le 28 mars, pardon, ça fait plus d'une semaine que le pays est confiné. Et elle sort de chez elle dans son village, qui est plus ou moins animé, on est dans la Creuse. Elle va pour prendre un rendez-vous chez son coiffeur. Et elle arrive devant la devanture, et rideau fermé. Et ma petite Josette, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit « Ah, mais ces jeunes, ils ne travaillent jamais enfermés, c'est pas possible. » Et elle ne se pose pas plus de questions que ça. Il y a aussi Josiane qui vit à la campagne autour de Clermont-Ferrand. Ça fait 3 semaines que le confinement a été prononcé, entre guillemets. D'habitude, elle a 3 visites par semaine d'aide à domicile, alors, ou pour des choses vraiment nécessaires, entre guillemets, ou pour des visites de courtoisie ou des animations, etc. etc. Et là, ça fait 3 semaines qu'elle n'en a plus qu'une, que c'est uniquement pour les courses ou pour les soins, et elle commence à trouver le temps un petit peu long. La troisième petite histoire, on se rapproche un peu de moi, c'est mon beau-père. Lui, il vit dans le livre à doigts. Alors, le livre à doigts, qu'est-ce que c'est? C'est du doublage à perte de vue. Et peu d'âmes qui vivent. L'an dernier, l'antenne du téléphone a été cassée. Il a fallu 8 mois pour qu'elle soit réparée. La connexion Internet, bof, bof. Ça fait encore les bruits de la DSL de nous quand on avait 10 ans. et il essaye de nous contacter, tant bien que mal. On a fait 3 tentatives de WhatsApp. Déjà, il a fallu un peu de temps pour qu'il l'installe. Et autant dire que la connexion, j'avais plus l'impression de parler à un robot qu'avec mon beau-père. Voilà, donc ça, c'était pour les petites histoires, pour mettre un peu dans le bain. Et la dernière histoire, donc, c'est pour introduire le sujet. Donc, c'est moi qui ai appelé la deuxième semaine de confinement une collègue qui habite elle aussi à la campagne dans un autre village pas loin de chez moi. Donc, je lui demande si tout va bien, ses proches, etc. Et je conclue par « ouais, c'est vrai, on est bien à la campagne ». Et puis là, je réfléchis, je me dis « mais en fait, non, on n'est pas tous bien à la campagne ». Ce n'est pas une histoire de grands espaces, de calme, de sérénité, etc. Il y a des problèmes en temps de confinement d'accès aux services qui n'ont jamais été aussi vrais, d'accès aux soins, d'éloignement, de solitude, etc. Et en fait, le problème à la campagne, ce n'est pas le mal logement et la promiscuité, encore que, mais c'est le mal logement et l'isolement, ou encore le mal logement et la vie en infraction. Alors, le mal logement, pourquoi ? Et de quoi on parle ? Parce que donc, le mal-logement, il y a plusieurs catégories. Ça va de la non-décence, donc c'est des petites infractions, des manques de confort, etc., à l'insalubrité, voire au péril. Donc l'insalubrité, on est plus sur des problèmes qui impactent la santé de l'habitant. Le péril, on est plus sur des problèmes qui impactent la sécurité de l'habitant. Donc là, ça va plus être des problèmes de structure, carrément du logement, des toitures, des planchers, etc. Donc, si on prend les chiffres d'abord, moi, je vais vous parler du coup du département du Puy-de-Dôme dans le Massif central. Et pour qu'on comprenne un petit peu, je vais opposer pour le coup les communes urbaines des communes rurales. Sur toutes les communes rurales, on est entre 10 et 43% du parc de logements qui est potentiellement indigne. Tandis que sur les communes urbaines, on tourne entre 0,5 et 4,5% de logements potentiellement indignes. Alors, avec toutes les réserves qu'on peut mettre sur les chiffres, parce que les calculs du parc potentiellement indigne sont assez complexes, mais ça donne déjà un ordre d'idée. Et pour autant, en fait, à la campagne, il y a beaucoup moins de signalements de cet état indigne. Alors, pour 2 raisons, déjà, parce que, bah, effectivement, en nombre, ça fait beaucoup moins de logements, donc beaucoup moins d'habitants, mais aussi parce que la situation des occupants n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'en ville, on va avoir une proportion de personnes qui vivent dans l'habitat indigne qui est plutôt des locataires. En plus, il y a une connaissance des dispositifs de lutte contre l'habitat indigne qui est meilleure. Et comme on est sur des locataires, il y a souvent des conflits propriétaires-locataires qui amènent à des démarches administratives, puis qui débouchent de temps en temps sur des signalements. À la campagne, ce n'est pas du tout la même. On est à 100% ou quasi sur des propriétaires occupants. Et quand on est propriétaire occupant, eh ben on ne fait pas de signalement pour dire qu'on vit dans de l'habitat indigne. Soit parce que, bah, en fait, on a toujours vécu comme ça, et ce n'est pas qu'on est bien ou qu'on est mal, mais on ne se pose même pas la question. Soit parce que, de toute façon, bah, c'est moi qui me suis mis dans ce logement, j'y suis attachée, qui est le gaz, qui n'est pas le gaz, qui est l'eau, qui n'est pas l'eau. Voilà. De toute façon, on ne se pose même pas la question de savoir s'il existe des moyens, des leviers, des accompagnements, des aides, etc. Donc voilà déjà pour les inégalités. Pour les leviers sur le mal logement, c'est pareil, ils sont beaucoup moins importants là aussi en campagne parce qu'il y a peu de solutions de relogement. À la fois parce qu'il y a moins d'offres, mais aussi parce que les gens, pour les reloger, en fait, ça implique de les déplacer, entre guillemets, géographiquement, de manière beaucoup plus impactante sur la vie quotidienne qu'en ville, que ça peut l'être en ville, même si je ne généralise pas non plus les cas en ville. Et aussi parce qu'il y a beaucoup moins de capacités et de leviers d'action des collectivités, des associations qui sont moins présentes, etc., etc. Ben voilà, ça c'est pour c'était pour dire qu'en fait à la campagne, on est en fait quand vous parliez de logement avec piscine, etc., vous avez tout le temps employé le terme résidence secondaire. Et en fait, les gens qui vivent à la campagne, ils sont pas dans leur résidence secondaire, ils sont dans leur résidence principale. Et soit c'est des maisons de bourg où il y a toujours pas de jardin et où effectivement l'espace public il est interdit là aussi. Soit ils sont dans leur résidence principale, mais qui n'a pas plus de piscine que pour les gens en ville, et qui, dans une grande proportion, est indigne et insalubre. Et puis, dans des proportions qu'on n'imagine pas vraiment, en fait. On retourne des fois 100 ans en arrière dans certaines communes, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour les inégalités ville-campagne et sur la thématique du mal-logement. Mais pareil, en fait, c'est pas inhérent au Covid, et puis surtout, c'est pas forcément plus mal vécu en temps de confinement, en fait, parce que la situation, elle était la même il y a 3 mois qu'aujourd'hui, et que en fait, c'est ce qui nous amène au point numéro 2. En fait, à la campagne, on vit dans l'infraction, en fait, entre guillemets. Alors, c'est sans faire de généralité, mais ce qui se passe, c'est que on a déjà d'une part pas l'impression qu'il y ait de risque. Et surtout, nos vies professionnelles et personnelles sont beaucoup plus liées qu'en ville. Je l'explique, mon voisin, il est éleveur de viande Aubrac et Salers, donc de races à viande assez typiques dans la région. Et on peut dire qu'il est quasiment autosuffisant, c'est-à-dire que lui, il fait ses céréales pour ses vaches, mais il fait aussi son potager. Il fait du coup sa viande, il fait ses légumes, etc. Il a ses poules et il a ses œufs, il a ses lapins et donc il a la viande de lapin. Enfin bon, voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a son petit papier qui va bien pour dire je vais travailler quand il va au champ donner à boire ou à manger à ses vaches. Mais par contre, il n'a pas son petit papier qui l'autorise à aller dans son jardin qui n'est pas du tout sur une parcelle attenante à sa maison et qui est même d'ailleurs souvent pas à lui, parce qu'il y a plein de baux, de prés entre voisins, etc., etc. Donc en fait, on vit, entre guillemets, tous dans l'illégalité. Moi, la première d'ailleurs, mon jardin, il fait 500 mètres carrés. Par contre, j'ai un voisin qui me prête une parcelle de 900 mètres carrés, où je fais mon potager, mais qui est à plus d'un kilomètre de chez moi. Et ça, sur le petit papier, je suis pas autorisée à y aller. Il y aurait plein d'autres choses à dire, et notamment sur l'isolement face au confinement. On a parlé de la connexion via la petite histoire de mon beau-père, et toutes les solutions en fait qui sont envisagées par les gouvernements, que ce soit la téléconsultation pour l'accès aux soins, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit, enfin, plein de choses. En fait, la vie à la campagne, c'est pas la vie des riches qui sont partis dans leur résidence secondaire, quoi. C'est pas voilà. Donc c'était juste pour, enfin, pas pour pousser un petit coup de gueule, mais en fait qu'on se rende compte que la campagne, c'est pas quand ça nous arrange et que les images qui nous arrangent, quoi. Et qu'il faut pas projeter en fait tout ce qui fait nos frustrations quand on vit en ville comme solution à la campagne. Enfin voilà, je sais pas si ma conclusion est très bien perceptible, mais c'était une conclusion.
Je crois que c'est clair, en tout cas, ouais, bravo, il y a des applaudissements, Mayu applaudit, et moi aussi, au fond de mon cœur, j'applaudis. Effectivement, je trouve que c'était chouette de terminer sur le fait qu'on projette, effectivement, il y a un peu ce côté, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, qu'on a envie d'être des fois à la campagne quand on est en ville, mais bon, il y a aussi ses limites à ça, il faut intégrer aussi les pour et les contre d'un vécu et d'une manière de vivre qui est relativement différente. Merci en tout cas pour ce moment-là. Je trouvais ça super intéressant aussi, à la fois ce côté sur l'inégalité que t'as souligné, et sur toute cette question sur sur le fait de ne pas se rendre compte. Je voulais un peu revenir dessus avant peut-être de laisser parler ton antagoniste avec Alice, mais je voulais cette sensation que le virus est peut-être moins présent. Comment ça
ouais. Bah ça, c'est complètement fou. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde à la campagne, mais je pense que, enfin, très clairement, la première petite histoire là, sur Josette, c'est la grand-mère d'un ami, en fait. Et elle, le Covid, enfin, je veux dire, il n'a aucune réalité pour elle, quoi. Et parce qu'elle ne connaît personne. Enfin, en plus, alors, il y a une chose que je n'ai pas précisée, c'est que dans ces endroits reculés à la campagne dont je parle, parce que moi je suis très contente d'être à la campagne, je veux dire, enfin, je suis néo-rurale et puis j'ai un espace. Après, je vis dans la fraction aussi, comme je l'ai dit, mais je ne fais pas du tout partie de cette frange de population rurale dont le bassin de vie en fait est très peu étendu, donc du coup elle connaît personne qui ait été atteint. Et puis alors elle a son petit-fils qui est à Paris effectivement et qui lui raconte les rues vides les premières semaines, enfin voilà, mais pour elle ça a vraiment aucune réalité à part ce qu'elle en lit dans le journal, quoi. En plus, il n'y a pas du tout de réseaux sociaux pour prendre les relais sur la vie sociale qui paraît un peu, donc enfin voilà, c'est un, enfin, et puis même nous ici, en fait le village à Vaudable n'a jamais été aussi vivant, parce que en temps normal, ben, moi la première sur Issoire ou sur Clermont, pour la plupart, on rentre le soir, ben, selon où on est parti au boulot, on rentre à 18h, on rentre à 19h, et puis ben basta quoi. Et le week-end, ben, on part en promenade, ou alors on va faire marcher les soirs, etc. Mais en fait, le village n'a jamais été aussi vivant parce que les gens, ils sont là toute la journée. Alors moi, je télétravaille, donc je ne suis pas libre de mes journées, mais les gens, ils commencent à remonter leurs murs, ils font leur potager. Enfin, voilà, les rues du village sont des plaques tournantes et on est content de discuter et on n'a pas l'impression de prendre des risques. Après, par contre, il y a la police qui tourne très, très bien, enfin les gendarmes. Et eux, ils nous le rappellent qu'il y a des règles et qu'on prend des risques et qu'on fait prendre des risques aux autres. Voilà.
Bah merci en tout cas pour ce mélange témoignage-chronique. En plus, tu m'as dit avant qu'on lance l'émission que tu avais peur de pas avoir suffisamment de choses à dire, mais je crois que t'en as dit pas mal. Merci beaucoup. Avant de peut-être s'étaler sur le débat, je laisse du coup la place à Alice qui ne vit pas à Vaudable, pour le coup, dans un petit village de 200 000 habitants, mais dans une petite ville qui s'appelle Paris, du côté de Barbès. Alice, si tu peux nous en dire un peu plus sur la situation dans la capitale française.
Alors, moi, ça va être peut-être un peu moins construit qu'Alexia, mais je ne vais pas traiter des inégalités en tant que telles, mais je pensais juste un peu raconter mon quotidien et que le témoignage en lui-même, en opposition avec celui d'Alexia, bon, ferait peut-être pas écho à des inégalités, mais en tout cas à des différences. Et je pense que ça peut faire un peu écho avec ta revue de presse en début d'émission aussi. Je pense que mon point d'accroche, c'était, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une collègue. Alors, ça, par rapport à ce que tu nous as énoncé en début d'émission, dans ta revue de presse, ça va paraître forcément moins dramatique, parce que ça m'a bien fait relativiser quand même mes conditions. Mais bon, je pense qu'il y a toujours pire et il y a toujours mieux. Donc, ce sera un témoignage qui vaudra ce qu'il vaudra à prendre en tant que tel. J'ai une collègue qui est trentenaire, comme moi, qui habite à Paris, et qui en ce moment est confinée toute seule dans un 17 mètres carrés sous les toits. Et alors certes, il y a pire, mais moi je trouvais déjà pas ça formidable, dans le sens où déjà le fait d'être seule pendant plus d'un mois et demi, psychologiquement, est quelque chose, selon moi, qui peut être très difficile. On parle beaucoup de l'entassement, du mal logement, du fait d'être trop nombreux, mais le fait d'être trop seul, à mon avis, peut aussi être vraiment difficile. Et bon, cette collègue, globalement, à chaque fois qu'on lui demande si ça va, elle dit ça va, mais bon, on sent que c'est pas non plus un ça va très franc. Et pour le coup, elle et moi d'ailleurs, et la plupart de mes collègues ou de mon entourage ne faisons pas partie des 17% de Parisiens qui sont partis en province. Alors, pour faire écho un peu à ce que disait Alexia, effectivement, je pense qu'un des problèmes aussi, c'est qu'on raisonne toujours par opposition. Et on oppose ville, campagne, mais en fait, ce n'est pas du tout tout noir ou tout blanc. Et effectivement, il y a tellement de conditions qui viennent s'y ajouter, les revenus ou que sais-je. Et je pense que quand on parle de la plupart des Parisiens qui sont partis en province, c'est pareil, il y a plusieurs réalités. Il y a certes tous les très riches qui sont partis dans leur maison secondaire, mais il y a aussi plein d'étudiants qui, de peur de rester confinés tout seuls dans 10 mètres carrés, bah, sont simplement rentrés chez leurs parents. Enfin, voilà, il y a plein de réalités comme ça. Et c'est aussi, je trouvais que ce chiffre de, je crois que c'est 17%, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vérifié, mais je crois que ce chiffre d'une part quand même importante de Parisiens qui est parti, qui a quitté Paris avant même que le confinement soit prononcé. Enfin, moi, je me souviens le lundi matin, sachant que le confinement a été prononcé le lundi soir, l'ambiance dans Paris était horrible. Enfin, moi, ça m'a mis dans un état d'angoisse. Les gens avaient des sacs à dos et partaient en courant comme si un nuage nucléaire allait s'abattre sur nous. Et en fait, les gens se précipitaient vers toutes les gares pour quitter la ville. Et enfin, je pense que ce chiffre-là ou ces phénomènes-là, ils sont révélateurs du fait que les conditions de vie à Paris, en fait, on les accepte, mais dans un certain contexte. Et on les accepte notamment quand elles sont contrebalancées par tout un tas d'avantages. C'est-à-dire que moi, typiquement, j'y viendrai juste après, mais j'habite, on est deux dans un 35 mètres carrés, dans un quartier que j'adore pas, dont je me satisfais, mais qui n'est pas non plus, qui rassemble pas mes conditions de vie idéales. Mais au quotidien, je m'en satisfais parce que, vu mes horaires de travail, je ne suis pas chez moi la plupart du temps. À Paris, on sort beaucoup, on a beaucoup d'amis, on est très connectés avec les gens, et en fait, si je suis à Paris, c'est avant tout pour ça. Et c'est vrai que en temps de confinement, on est supprimé. Alors, c'est la faute à personne, hein, mais encore qu'on pourrait débattre. Mais en temps de confinement, on n'a plus tous ces avantages et on est réduit un peu à des conditions de vie dont certains, d'ailleurs, nous rappellent qu'on a choisi, alors que, bon, pas forcément toujours. Enfin, bref, je m'égare un peu. Moi, je voulais un peu témoigner du coup de ce que c'était la vie, bon, pas la vie à Paris, mais ma vie à Paris en tout cas, dans mon quartier. Donc, je suis confinée avec ma sœur, avec mon chat, dans 35 mètres carrés. Au niveau des statistiques ou des définitions, je ne sais pas si on est, si on est considéré comme dans du mal logement ou dans de la promiscuité. Pour l'anecdote, un jour, ma sœur a déboulé dans la cuisine en me disant « N'empêche que vivre comme ça, H24 ensemble, on est quand même… » Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais comme quoi c'était vraiment pas les meilleures conditions. Donc, je l'ai un peu mal pris sur le coup. Je me suis dit « Ah bah, merci bien !» Donc, je télétravaille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis à la fois contente parce que, bon, déjà, ça m'occupe. Ça m'empêche d'être enfermée et de trop tourner en rond. Je peux adapter un petit peu mes horaires, ce qui est quand même confortable. Je me sens en sécurité, mine de rien, le fait d'être chez moi plutôt que de devoir sortir. Mais les conditions, notamment physiques, en termes de posture et de poste de travail et de mal de dos, c'est plus du tout les mêmes conditions. Ce sur quoi je voudrais appuyer un peu, c'est la rue, en fait, et le quartier. Parce que, bon, ça, j'y suis venue un peu en conclusion après avoir pensé un peu à ce que je voulais vous dire, mais mal logement, moi, j'ai l'impression que mes conditions de logement, elles sont plus à plaindre par l'extérieur et par le quartier que par mon logement en lui-même. Enfin, le logement, c'est aussi à penser au sens large. Et c'est-à-dire que mon logement, il est petit, il est étroit. Cela dit, je pense qu'il reste quand même décent, confortable. J'ai l'eau, j'ai l'électricité, j'ai Internet. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Par contre, dehors, c'est un quartier qui est très, très animé, qui est très racisé, qui est très spécialisé dans la vente et le commerce de produits africains. Et en temps normal, c'est très, très bruyant. Et concrètement, j'ai un marché sous mes fenêtres tous les jours. Et là, c'est vrai qu'en temps de confinement, tout a été contraint de fermer, surtout par des arrêtés de, enfin par la loi, hein, qui a, clairement, qui a restreint les conditions d'ouverture parce que, je ne sais pas comment le dire, mais sinon c'était trop le bordel. Enfin, c'est un quartier qui est vraiment très très fréquenté et en fait, les premiers jours qu'on a vu des policiers débarquer par dizaines de camions pour essayer de maintenir un peu l'ordre, enfin les distances de sécurité, les attestations et tout ça. Alors, j'ai un ami qui... Parce que moi, ça m'inquiète, c'est quelque chose que je trouve très anxiogène. J'ai un ami qui essayait de me dire, de me rassurer en me disant que, bah, ils étaient obligés quelque part. Et enfin, c'est vrai. C'est-à-dire que même pour la santé et la protection de ces gens qui étaient en bas en train de faire leurs courses, il valait mieux qu'ils s'écartent et qu'ils respectent les distances et ce genre de choses. Par contre, le zèle... je ne suis plus du tout en train de suivre mon fil conducteur, mais...
c'est intéressant quand même.
A été déployé, les forces de l'ordre m'a beaucoup choquée. Et pour l'anecdote aussi, aux infos, ça m'a bien fait rire jaune quand, je ne sais plus si c'était le soir même ou le lendemain, qu'on entendait dire que le confinement commençait le mardi midi et que le mardi midi, les policiers étaient déjà dans les rues, mais que c'était seulement des visites de courtoisie pour faire de la prévention et que les amendes... n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle rentrerait en vigueur le lendemain. Et ça m'a beaucoup attristée quand je peux vous dire qu'à midi 2, je vous jure que j'ai constaté des policiers en train de verbaliser et en train de verbaliser toutes les personnes qui le mardi matin se sont dit « le mardi midi, on ne pourra plus sortir, donc il faut qu'on fasse des courses, en fait, tout simplement. » Et ça, je trouve ça dommage. Donc bon, je reviens à mon fil conducteur. Tout ça pour dire que aussi en ce moment, mine de rien, le fait que tout soit fermé ou quasiment tout, moi, ça me profite et j'en suis ravie parce que pour télétravailler, c'est beaucoup plus agréable d'avoir du calme et d'avoir moins de monde et du coup moins de police et bref, les conditions un peu plus adaptées. Là, l'annonce du déconfinement, quand bien même il sera progressif, on ne sait pas de quoi il va en relever, mais ça m'inquiète un peu plus de me dire si je continue de télétravailler et que les commerces rouvrent, tout d'un coup, ma qualité de vie va être dégradée. Et pour le coup, ce n'est pas dû à mon logement, mais à sa localisation et à son quartier, à son extérieur. La police aussi, dans les premières semaines, là, ça s'est un peu calmé parce qu'il y a moins de monde, mais dans les premières semaines, j'ai trouvé ça très difficile parce que c'était non seulement la police, mais là, aujourd'hui encore, c'est carrément des CRS qui sont globalement, quotidiennement, constamment postés à l'entrée de la rue. Ce matin, j'ai été très heureuse de constater qu'ils étaient aimables, où ils s'adressaient aux gens en leur disant que pour leur sécurité, il valait mieux respecter un mètre entre chaque. Et il y en a même un policier, je l'ai entendu sans aucun jugement ou sans aucune condescendance, expliquer que si les gens ne savaient pas ce que c'était un mètre, ils pouvaient tendre les bras pour établir un périmètre de sécurité entre eux. Et vraiment, pour le coup, c'était très bienveillant, contrairement au tout premier jour où les forces de l'ordre qui avaient été déployées étaient... Enfin, les commentaires qui étaient faits étaient vraiment... du style à être hurlé à travers un mégaphone et à être très infantilisant en disant, je cite, en hurlant, je cite, « Restez chez vous, 800 morts par jour, c'est à cause de vous. » Donc, c'est ce genre de choses que j'entendais au début. Voilà, du coup, je finirai mon petit témoignage sur le fait que la promiscuité et le mal-logement, c'est aussi à l'extérieur, en fait, c'est aussi en termes de quartier. Plus que d'habitat au sens strict. Et je sais que dans d'autres quartiers de Paris, ce n'est pas le cas. Et pour y avoir été, pour une raison ou pour une autre, même en temps de confinement. Et d'ailleurs, c'est un peu la solution que j'ai trouvée pour mieux le vivre, le fait de sortir de mon appartement, mais aussi rien que de ma rue, en fait, parce que d'une rue à l'autre, c'est complètement différent. Et un peu du quartier, et de se rendre compte qu'ailleurs, c'est différent, qu'il n'y a pas une aussi grande présence policière. que les rues sont moins denses et qu'on peut un peu plus respirer, ce qui n'est pas désagréable à Paris pour autant, hein, d'avoir un peu plus de calme par rapport à d'habitude. Et que j'habite tout près de Montmartre. Donc, mine de rien, le soir, aller pouvoir faire une petite balade à Montmartre et observer la vue avec très peu de gens, c'est aussi très agréable. Et c'est aussi ça, rester à Paris en temps de confinement. Et bon, pour finir sur une note positive aussi, je pense que il y a les conditions du logement matériel, mais il y a les conditions familiales et amicales et sociales, et enfin le contexte. Et je sais que moi, par exemple, si je vis dans petit, ok, mais je vis avec les personnes avec qui j'ai choisi de vivre, dans un logement que j'ai fait à ma manière, et mine de rien, je m'y sens quand même bien et je m'y sens en sécurité. Et je pense que ça, c'est aussi important. Enfin, à partir du moment où j'ai un toit et que ce toit est chaleureux, je suis contente d'être restée à Paris.
Merci. Merci, Alice. Merci pour cette conclusion et pour tout ce témoignage, au final, qui est très personnel. Et c'était aussi intéressant d'avoir quelque chose de... Je pense pas que c'est quelque chose qu'on entend souvent sur les médias et sur les radios ou quoi que ce soit. Donc, c'est important de l'avoir. C'est vrai qu'en plus, c'est d'autant plus intéressant d'avoir... des nouvelles de nos amis français, puisque les conditions de confinement sont relativement différentes entre la Belgique et la France, notamment sur le fait de pouvoir sortir, de pouvoir se promener sans avoir besoin d'autorisation, sans avoir une contrainte de temps ou au niveau du kilomètre pour pouvoir sortir de chez soi. C'est vrai que, en tout cas... Nous, habitants de Belgique, nous pensons fort aux habitants de la France qui ont un confinement effectivement plus contraignant sur plusieurs aspects. Donc j'imagine que c'est aussi plus dur sur ce point-là. Et en tout cas, je trouvais ça aussi très intéressant ce que tu soulignais sur on vit un logement, mais on vit également effectivement du coup tout un environnement. Donc notre fenêtre donne forcément sur un environnement, et c'est aussi important ce qui se passe autour. Et c'était intéressant et important de le souligner, d'autant plus que notre fenêtre devient l'un des principaux endroits d'extérieur et d'endroits pour voir autre chose que nos murs. Donc ils sont d'autant plus importants actuellement.
Et d'ailleurs, ouais. Je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure sur être pauvre, c'est être entassé. Pour le coup, je pense que c'est aussi un peu ce que tu voulais dire, mais il y a entassé dans le logement et entassé dans l'immeuble et entassé dans le quartier. Et c'est vrai que moi, ma fenêtre, là en face, rien que là, je lève les yeux, je vois 5 appartements. Donc, et je ne suis même pas à 20 mètres, à 10 mètres de mon voisin d'en face. Clairement, je peux suivre, si je veux, tout ce qu'il fait de sa journée et réciproquement. Donc, et ça, c'est... Même à l'échelle de Paris, ce n'est pas le cas dans tous les quartiers, ce n'est pas le cas à l'échelle de la France. Et quelque part, en même temps, c'est positif aussi, parce que je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai choisi et je me sens moins seule. Je sais que je ne pourrais pas être confinée toute seule à la campagne, par exemple. Ça, c'est sûr que je le vivrais encore plus mal.
En tout cas, c'était vraiment deux oppositions de style et de vécu. Et c'était vraiment chouette d'avoir ça, et même, en tout cas, d'avoir ces témoignages et de voir comment on peut vivre donc une même, du coup, un même événement d'une manière totalement différente, et ce vécu du logement, du voisinage est complètement différent. On ne parle pas d'un pays où... d'autres pays ou quoi que ce soit, on parle de deux conditions en France complètement différentes, et je vous remercie en tout cas beaucoup pour ces témoignages. Je ne sais pas si vous aviez encore envie de rebondir, sinon on va passer à la troisième partie de l'émission. Je ne sais pas s'il y avait encore quelques... Oh, je crois une main se lever. Il y a beaucoup de pixels du côté d'Alexa, du moins pour moi, mais je crois que j'ai vu une main se lever.
Ouais, mais moi je voulais. Bon, effectivement, les témoignages, c'est hyper intéressant. Et moi, ce qui me fait bondir, entre autres, c'est quand tu parles, Alice, des forces de l'ordre qui étaient là le mardi à midi 2, quoi. En fait, ça montre le tel niveau de conscience de nos gouvernements et des consignes, du coup, qui ont été données, sur le fait que bah, les gens ne sont pas bien et du coup, les gens ne vont pas obéir, quoi. Enfin, je veux dire, s'ils étaient là à midi 2 à mettre des amendes dans ton quartier et pas dans les autres, c'est bien qu'il y ait une raison, quoi. C'est pas que cette équipe était plus con que d'autres équipes. C'est qu'il y a eu
alors,
des consignes.
Y a de ça, quand même.
Et c'est que du coup, ça avait été analysé et qu'ils le savaient. Oui, mais je veux dire, ils sont cons tous partout. Par contre, ils n'ont pas eu les mêmes consignes. Et c'est que c'est. Enfin, je veux dire, pas, il faut pas réfléchir 3 secondes pour se rendre compte que ceux qui sont en infraction par rapport aux règles de confinement, c'est ou les gens à la campagne qui n'ont pas le choix, ou les personnes en ville qui n'ont pas le choix. C'est ça ou devenir fou en fait. Donc ou alors et voilà, du coup en fait les consignes sont les mêmes pour tous, mais les modalités de faire respecter ces consignes ne sont pas les mêmes pour tous, quoi.
Et puis, ce sera
très français.
Ce sera sûrement l'objet de la prochaine émission, mais c'est vrai que sur l'autoritarisme et les dérives policières, notamment en France,
il y aurait
à faire des émissions de 4 heures. Et même moi, à mon échelle, avec ma sœur, on s'est bien rendu compte que dans notre quartier, même nous, au sein de notre quartier, on est privilégiés. C'est-à-dire qu'on est des jeunes femmes blanches et on se doute que si on montre un peu patte blanche, les flics vont être un peu moins chiants que ce que moi je vois depuis ma fenêtre et comment ils agissent avec les clients. Et je pense que, enfin, il y a tellement de facteurs qui s'ajoutent à ça parce que tous les gens qui viennent faire les courses en bas de moi, par exemple, typiquement, je fais pas les courses en bas de chez moi. Je vais faire les courses ailleurs. Et ceux qui viennent faire les courses en bas de chez moi, c'est des gens qui habitent encore ailleurs. Et c'est des gens souvent qui viennent de banlieue, justement. Et c'est des gens qui ne parlent pas forcément français. Et je comprends qu'il y ait besoin, quelque part, d'une présence policière un peu plus forte pour informer, pour faire de la prévention. Mais en fait, on constate que ce n'est pas ce qui arrive. On n'est pas sous le format de la prévention, là, en bas de chez moi. Et on est beaucoup plus sur le ton de l'engueulade et de l'infantilisation, quoi.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, hein, mais justement, tu en parlais, Alice, ce sera le thème, donc, non pas la semaine prochaine, mais donc, dans 2 semaines, on va parler justement d'autoritarisme en temps de confinement. La semaine prochaine, on va parler notamment des centres médicaux et des soins donc, actuels confrontés au confinement, et du coup, comment ils sont étalés sur un territoire. Donc, on parlera ça la semaine prochaine. Et d'autoritarisme dans 2 semaines. Merci en tout cas, je veux pas vous arrêter, je crois que vous êtes lancé, mais on va quand même passer à la troisième partie de l'émission juste après une petite pause musicale. Ce sera donc avec notre cher Mayou qui attend bien sagement depuis le début de l'émission, mais qui a envie de parler aussi, que diantre. Donc on va l'écouter tout à l'heure avec sa petite chronique sur l'habitat partagé, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, merci. Et donc, je vous remercie en tout cas à nouveau toutes les deux pour vos témoignages, vos chroniques qui peut-être ont été préparées au dernier moment, mais en tout cas qui étaient d'une très grande qualité, je tiens à le souligner, du moins qui étaient très intéressantes. Petite pause musicale. Alors, on était déjà avec quelque chose d'assez actuel qui datait de 2018 en première partie d'émission pour notre premier morceau. Là, c'est vraiment quelque chose de tout neuf puisque c'est sorti la semaine dernière. C'est Titouan, le morceau c'est Pan. Donc, Titouan, si vous ne connaissez pas, c'est un artiste alliant beatbox et instrument avant ici à la flûte traversière. Normalement, c'est super chouette à écouter, mais en plus, super chouette à voir puisqu'il. Il est notamment accompagné d'un danseur hip-hop, donc c'est quelque chose à voir en live, mais je pense que ça va quand même déjà vous faire plaisir à vos oreilles. C'est Titouan Pan qu'on écoute tout de suite. Thank you. Retour dans L'Erreur est urbaine sur 48FM. L'Erreur est urbaine, l'émission qui vous parle d'urbanisme, de ville et d'architecture. On est dans la troisième partie de l'émission. Notre thématique, c'était autour du confinement et de la... Alors, je perds mes mots, c'est déjà... et des inégalités en temps de confinement. Cette fois-ci, c'est un peu notre partie hors d'œuvre. On avait avec nous, en deuxième partie de l'émission, Alice et Alexia qui nous ont parlé notamment de leur vécu, l'une à la campagne, l'autre à la ville. Et pour cette troisième partie, plus hors d'œuvre, mais qui est quand même un peu en lien avec la thématique. Merci Mayou de nous parler, donc, toi, du logement partagé et d'une réflexion, justement, en temps de confinement. On t'écoute.
Merci. Alors, bonjour, Mayou. S'il fait jour, bonsoir s'il fait noir. En ces temps de confinement, subitement, on prend conscience de son logement et on pense les choses autrement. Et comme dirait la chanson, la situation mérite attention pour éventuellement trouver des solutions. Laissez-moi alors vous conter l'expérience des habitats groupés. Il était une fois des amis parfois, des familles des fois, des personnes âgées plusieurs fois, de parfaits inconnus ma foi, toutes et tous motivés, croyez-moi. Ils et elles ont fait le pari du participatif, du coopératif, de l'apéritif, du groupé, du partagé à l'heure du thé, du solidaire avec du caractère, de l'intergénérationnel avec une pincée de sel. De l'autopromotion, de l'autoconstruction, sans contrefaçon. De l'oasis en plein désert, de l'éco-hameau libertaire, bref, du vivre ensemble. Je vous passe les détails historiques, juridiques et techniques qui assurent la fabrique de ces habitats éthiques. J'en viens directement à l'actualité du moment, bien vivre son confinement au sein d'une coopérative d'habitants. Ah, que vous êtes bien dans votre chez-vous, avec votre petite famille tout contre vous. Vous avez su vous concevoir un logement intelligent avec l'aide d'un architecte compétent. Si vous en avez marre de tourner en rond entre chambre, cuisine et salon, vous filez à la bibliothèque partagée où Jérém du deuxième a déposé le dernier Elena Ferrante. Lorsque vous avez besoin de préparer votre prochaine réunion budgétaire sans avoir à gérer les enfants par terre, vous réservez le bureau commun pour vous offrir un nouvel écran. Si vous n'avez pas de masque pour sortir, vous pouvez compter sur Aline, la voisine, qui est couturière. Celle-ci avait déjà profité de la salle commune pour y installer un atelier costume. Pas le temps de tergiverser devant les rayons du supermarché. Isabelle, la nouvelle, vous a chargé de lui ramener un pot de miel. Sa jambe cassée ne lui permet pas de se déplacer. Heureusement que Brigitte, du numéro 8, est descendue à la buanderie. Vous y avez oublié le doudou du petit. Vous commenciez déjà à paniquer, impossible d'en racheter un avec les magasins fermés. Et si vous n'aviez pas les clés de l'appartement de Vincent, vous n'auriez pas pu fermer sa fenêtre à temps et la pluie aurait inondé tous ses vêtements. On a autre chose à faire en rentrant quand on est soignant. Le bonheur, c'est quand Olivier, le cuisinier du dernier, vient vous apporter un de ses succulents mets. Depuis qu'il a dû fermer son restaurant, il cuisine pour vous, ses cohabitants. Et quand vous vous posez des questions sur votre utilité dans ce monde sous tension, vous descendez planter des panais dans le potager partagé avec Dédé du rez-de-chaussée. Et s'il vous prend l'envie de vous plaindre du confinement, vous allez papoter avec Armand, le migrant, qui occupe la chambre de vos amis le temps que le monde recommence à nous donner le tournis. Bon, vous avez bien pensé à déménager quand Lulu, le jeune du dessus, a mis sa musique à fond faisant trembler le plafond. Ou quand Geoffrey, votre voisin de palier, a abattu le cerisier juste parce qu'il s'ennuyait. Ou encore quand Mathias, du logement d'en face, a oublié de sortir la poubelle du jour, comme toujours. Mais vous vous apaisez en notant ces sujets pour la prochaine AG, et surtout vous relativisez. En choisissant de rejoindre cette coopérative d'habitants, vous avez su anticiper nombre de difficultés liées au confinement. En mettant du vivant dans votre logement, en choisissant la coopération plutôt que l'individualisation, en pariant sur l'humain plutôt que sur l'urbain. Le conte prend ici sa fin. Sa morale ne se veut pas globale, elle est à la gloire du local. Et si, après le confinement, on pensait à habiter autrement ?
Bravo ! Bravo, Bayou de chouette. La Fontaine.
C'est clair.
Eh, j'ai oublié de dire en introduction, c'est vrai que j'avais déjà lu ton petit poème, j'ai oublié de dire que c'était poétique, que c'était chantant et que ça m'était... On a été assez deep pendant...
Du moqueur. Ouais. Ouais.
Bah, on m'a parlé de hors d'œuvre alors.
Ouais, t'as très bien pris la troisième partie en main, en tout cas, merci beaucoup. Je vais laisser la parole aux invités s'ils ont envie de peut-être rajouter un petit mot.
Je prends la parole du coup. J'ai trouvé ça très chouette et d'autant plus chouette que c'est pas pour me la raconter, mais c'était un peu la description de Vodeb quand même. Voilà. Les prénoms n'étaient pas les bons, mais, mais c'est ça. Voilà, non, c'est chouette.
Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis sur. Moi, je trouve que ça recoupe pas mal de choses parce que, Alice, ce que tu disais par rapport à. Effectivement, l'habitat, c'est le logement et son contexte extérieur, en fait. Et effectivement, quand tu vis à la campagne, tu es peut-être plus aussi dans un contexte plus favorable à tout ça. Et l'habitat partagé, l'habitat participatif, il y a le logement et en fait, on mutualise finalement autre chose qui en fait un habitat, en fait, et plus un logement au sens individuel, mais plus commun, quoi. Donc finalement, oui, ça fait pas mal écho.
Après, pour le coup, je me permets de prendre la parole, mais pour avoir vu, bon, c'est pas le cas forcément dans mon immeuble, mais pour avoir vu dans d'autres immeubles parisiens ou même dans la rue ou dans les commerces, même en milieu urbain, du coup, on voit, ça c'est quand même à souligner, des solidarités qui se mettent en place, des annonces, des messages, même un peu organisés, qui s'affichent dans les halls d'immeubles pour dire si vous êtes soignant, je peux vous aider à faire ci, si vous êtes âgé, je peux vous aider à faire ça, j'ouvre ma cour si vous avez des enfants et que vous voulez qu'ils prennent l'air 2 heures par jour. Enfin, Même en ville, du coup, y a, en fait, moi, ça m'a aussi fait écho à ton hors-d'œuvre, oui. Mayou, dans le sens où, en fait, l'habitat partagé, et du coup, dans ces temps un peu difficiles, il s'organise de fait, quoi. Quel que soit,
s'ouvre. Ouais.
C'est ça. Mais c'est ça la question, en fait. C'est est-ce que les gens s'ouvrent parce qu'ils ont finalement soudainement un prétexte. Et voilà, on ose, en fait. Enfin, on ose ou on n'a plus peur ou on n'a plus rien d'autre à faire. Ou est-ce que c'est du... Enfin, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est clair que... C'est clair que...
Enfin, voilà, c'est cultiver.
Des choses qu'il faut cultiver, quoi. Et en fait, je pense que c'est en grande partie une question d'oser, en fait. Comme quand on part en voyage à l'étranger, en fait, on se permet des choses, de faire du stop, du ceci, du cela, qu'on ne se permettrait pas en France ou en Belgique quand on est belge. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas. Et dès qu'il suffit d'un prétexte et on se permet et on se rend compte qu'en fait, bah, chez nous, c'est pareil que chez les autres, quoi. Et que les gens sont les mêmes, voilà, qu'il y a des bons, des mauvais, des potes dans les voisins, des non-potes dans les voisins, etc. etc. quoi. C'est clair que l'habitat participatif, au-delà de la forme juridique, etc., que ça peut prendre, et architecturale, etc., c'est qu'est-ce qu'on peut pêcher comme mode de vie, quoi. Et qui existe déjà ailleurs, hors habitat participatif.
D'autant plus que j'ai l'impression que nos amis belges sont plutôt bien sur ce sujet.
Ouais.
Peut-être mieux qu'en France, d'ailleurs. Mes connaissances sont très maigres sur vous, nos voisins. Mais j'ai cru lire, en faisant quelques maigres recherches justement, que c'était beaucoup plus encouragé, et beaucoup plus commun et beaucoup plus facile, je pense, à mettre en place que chez nous. Donc bravo.
Bravo à vous. Bravo les Belges, bravo d'avoir des Français, et c'est rare qu'on dise bravo. Non mais ouais, alors je connais pas effectivement, alors honte à moi, j'ai été urbaniste quelque temps en Belgique, mais je ne connais pas tous les fonds juridiques par rapport à ça. Effectivement, je sais que ça se développe pas mal, notamment dans la province du Luxembourg, où il y a beaucoup plus d'habitat collectif, mais du coup dans un secteur rural. Alors après, la ruralité entre la Belgique et la France est quand même relativement différente. Ça reste de la campagne, en tout cas, plutôt active et dense. Mais ça existe beaucoup dans cette province-ci. Et c'est vrai que, alors je ne sais pas au niveau fédéral, mais au niveau régional, effectivement, la Wallonie a mis en place plusieurs facilités du point de vue juridique pour pouvoir créer des habitats locaux. Alors, par contre, je crois que ça dépend aussi, notamment pour des yourtes ou pour de l'habitat léger, je crois que ça reste compliqué. Mais en tout cas, pour effectivement, pour du travail sur de l'habitat vraiment collectif, effectivement, il y a pas mal d'expérimentations, donc dans la province du Luxembourg, mais aussi en zone urbaine, à Liège. Donc, Edwin n'est pas là, mais nous avait fait une chronique notamment sur en guillemets, les colocations de vieux et qui se développent tout particulièrement. Donc ça, c'est un concept qui vient plutôt des Pays-Bas, mais qui se développe également en Belgique. Ça fait une bonne émission. J'avais promis à la fois à nos auditeurs, mais en plus à nos chroniqueurs, que ça ne durait qu'une heure, mais je vois qu'on s'étale petit à petit. Avant de lancer notre chère marquise de Montpérou qui est souvent là avec nous, qui nous a snobé aujourd'hui, elle n'avait pas envie de voir ces piètres gueux, je crois, de français. Et elle a même décidé de nous envoyer via son application à la fois une chronique pour souligner son vécu de confinement, mais également, on le répète et on souligne 48FM, mais également en avant les artistes locaux, les artistes liégeois. Donc en plus d'une chronique, la marquise nous fait l'honneur de chanter pour nous une petite chanson en fin d'émission. Je vous laisse plutôt avec elle, mais juste avant de terminer, il fallait vraiment que je vous remercie, vous trois. Merci Mayou, merci Alexia, merci Alice. Big up en tout cas à la France et big up au hiatus.
Yes.
Au tourisme d'urbanisme de Bordeaux qui était en France aujourd'hui avec pas moins de 4 personnes, donc la tête.
nos intervenants aujourd'hui. Donc, Agnès Ferland-Berton, directrice de l'IATU
Soutenu.
Si, sur 48 FM. On est là à Liège et on t'enverra le podcast avec plaisir. Donc, on se laisse. Ah ouais, j'ai oublié aussi de souligner, avant de vous laisser, pardon, donc l'émission donc L'Erreur est urbaine est notamment faite par nos amis d'Urbagora, qui est une association d'urbanisme sur Liège. Ça nous permet à la fois de dire leur site internet, urbagora.be, sur laquelle vous pouvez retrouver notre émission. Et n'hésitez pas à liker notre page Facebook, L'Erreur est urbaine. On a bien besoin également pour continuer cette émission. Et vous pouvez nous suivre. Tous les podcasts sont en ligne la semaine d'après. Voilà, gros bisous à toutes et à tous qui nous écoutaient. Merci beaucoup et on se laisse avec la marquise de Montpérou. Gros bisous.
Bonjour les gueux, bonjour à vous, idéalistes pouilleux. Ici Mathilde Marguerite Bérangère Antienne, marquise de Montpérou, grande ordonnatrice des élégances en province d'Aquitaine et de Navarre, et spécialiste en retraite dramatique au couvent pour y finir mes jours. Je vous parle depuis ma demoiselière liégeoise. J'eusse préféré que ce fût depuis mon fief de Montpérou, mais lorsque j'ai voulu le rejoindre, chose incroyable, mon carrosse a été arrêté à la frontière. Moi, la marquise de Montpérou, on m'a interdit le passage comme un vulgaire chasseur ardennais dans sa BMW. Je peux vous dire que ce petit Jean Foutre d'Emmanuel a entendu parler de moi. Pour quelqu'un qui prétendait défendre les premiers de cordée, le voilà qui me fait une nuit de Varennes, mais à l'envers. Enfin, je cesse de parler de choses qui ont eu lieu alors que votre pays n'existait même pas et que vous ne pouvez comprendre. Heureusement, Jeannelic, ma fidèle soubrette, est confinée avec moi et continue de se dévouer à mon service avec toute l'abnégation dont elle sait faire preuve. Jeannelic, qu'est-ce que c'est que ce bruit pendant que je tourne? Quelle impotée vous faites, ma fille! Excusez-moi, c'est elle qui fait mes courses. Ainsi, j'évite l'exposition au virus. Quand elle revient, je lui frictionne entièrement le corps à la javel avant de la laisser rentrer. Mais avec quelle triste nouvelle est-elle arrivée de ses emplettes dès la première semaine de confinement? Que les torréfacteurs, ceux qui vendent le thé et le café en vrac, étaient fermés. Oh! Douleur non encore éprouvée. Voilà 6 semaines que je bois du Lipton et du Rambouts de supermarché. On se croirait revenu avant l'invention du commerce triangulaire. J'en appelle au bon sens de votre gouvernement. Mettez immédiatement les torréfacteurs indépendants sur la liste des entreprises essentielles. Il en va de la survie des grandes de ce monde. Qui rehaussera votre minable cité par sa distinction si vous me laissez dépérir jusqu'au 11 mai sans mon Darjeeling du matin? Heureusement, au milieu de ce marasme, des personnes distinguées prennent des initiatives du meilleur effet. Une jeune meneuse de revue bruxelloise répondant sur Instagram au pseudonyme délicat de It's Daphne Beach avec 3 H a lancé un appel à chanter les œuvres de Britney Spears à sa fenêtre tous les dimanches à 17h. Voilà qui relève le niveau culturel de votre nation. J'ai évidemment soutenu l'initiative en donnant de ma voix cristalline sur l'air de Hit Me Baby One More Time ou de Toxic, ce dont tout le quartier a profité. Malheureusement, l'événement n'a connu que 2 éditions et je n'ai pas eu l'occasion de délivrer mon morceau préféré de la maestra du Mississippi. Or, il ne vous aura pas échappé que ces temps-ci, le premier manant venu y va de sa petite cover sur les réseaux sociaux. Vous comprenez que je mérite un cadre plus digne de mon rang pour délivrer la mienne au monde. Quoique je ne sois pas dupe, votre sympathique bricolage radiophonique n'attire pas plus d'audience que ma petite cousine par alliance quand elle reprend Jeux interdits à la flûte à belt sur TikTok. Véridique, un membre de ma famille a également rendu public son interprétation de Fort Boyard au Oud. Je vous l'enverrai, mon petit Alexandre, je connais votre fascination pour la côte atlantique. Sur le choix des orchestrations, vous vous douterez que j'ai tendance à préférer la délicatesse raffinée, façon Yael Naïm, plutôt que les boîtes à rythme de boom de colo des originaux. Et ça tombe bien, car Jeannelic nous a équipés de quantité de stocks de riz et je n'ai pas hésité à m'en servir. Mais madame, comment vais-je réaliser le riz au lait de votre petit déjeuner? Silence, Jeannelique! J'adoucis les mystères du peuple. Musique, mon petit Alexandre. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. I think I did it again. I made you believe we more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love. Then I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is here. I'm dreaming away, wishing that hero they truly exist. I cry watching the day. Can't you see I'm a fool in so many ways? 'Cause to lose all my senses, that just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, whoops, you think I'm in love. Then I'm sent from above. I'm not that innocent. Oops, I did it again to your heart, got lost in this game. Oh baby, oops, you think that I'm sent from above. I'm not that innocent. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love. Then I'm sent from above.